France Musique.
Le journal qui vous est présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Au coude à coude, dans les sondages, les deux favoris pour succéder à Angela Merkel ont hier soir plaidé en Allemagne pour que l'Union européenne joue un rôle plus important sur la scène internationale. Pas question pour eux de laisser toute la place aux États-Unis et à la Chine. Le dernier débat télévisé de la campagne électorale n'a pas permis de départager nettement les candidats du SPD et le CDU qui, à deux jours maintenant du scrutin législatif, ont toutefois réussi à reléguer à la troisième place la représentante des Verts, dont les préoccupations environnementales seront aujourd'hui scandées dans les grandes villes du pays. À Berlin, mais pas seulement, les défenseurs du climat ont en effet prévu de manifester pour réclamer des mesures radicales contre le réchauffement de la planète. Il faut dire, Cyril Sauvageau, que sur ce point, le bilan de l'actuelle chancelière allemande n'est pas très reluisant.
C'était en 2007, lors de son premier mandat. En visite au Groenland, Angela Merkel posait devant un glacier menacé par le réchauffement et se présentait alors comme la chancelière du climat. Après 16 ans de pouvoir, le bilan est en demi-teinte. L'Allemagne ne tiendra pas ses objectifs de réduction de CO2. Juliette de Grandpré est chargée des questions européennes au WWF Allemagne.
Au niveau international, elle a toujours... Elle s'est toujours fortement engagée pour que les négociations, notamment sur l'accord de Paris, mais aussi le protocole de Kyoto, avancent bien. Par contre, au niveau national, on a vraiment un problème d'absence complète de mesures concrètes.
Pour les ONG, la chancelière a trop longtemps donné raison à la filière automobile et à l'industrie en général, en freinant l'adoption de mesures contraignantes. Son plan climat, arrivé très tard en 2019, a été retoqué par la Cour constitutionnelle car insuffisant. Point positif malgré tout, la sortie du nucléaire actée en 2011 après Fukushima, Muriel Gangbin du think tank Agora Energiewende.
Fukushima a d'une certaine manière peut-être forcé aussi Merkel, mais elle a pris un engagement qu'elle tient, et l'Allemagne sort du nucléaire en 2022. C'est pas quelque chose qui est rediscuté dans le débat national de toute façon. Ce qui est nécessaire évidemment pour tenir les engagements climatiques de l'Allemagne, il faut aussi sortir du charbon et au plus vite. Il va falloir installer extrêmement rapidement beaucoup d'énergies renouvelables en Allemagne.
Cette nouvelle phase de la transition énergétique sera l'un des chantiers du prochain gouvernement. La sortie du charbon est fixée à 2038. Les écologistes veulent y parvenir dès 2030.
Et les États-Unis promettent à la France de passer de la parole aux actes. Il s'agit de restaurer la confiance entre Washington et Paris après l'annulation du contrat prévoyant la vente de sous-marins tricolores à l'Australie. Les chefs des diplomaties françaises et américaines ont reconnu hier que cela prendra du temps et nécessitera beaucoup de travail. Anthony Blinken et Jean-Yves Le Drian se sont vus à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont est depuis hier entre les mains de la police italienne. Il a été arrêté à son arrivée en Sardaigne en vertu d'un mandat d'arrêt européen. L'eurodéputé qui vit en exil depuis 4 ans en Belgique doit être présenté ce matin au juge d'une cour d'appel italienne compétente pour décider de son sort. Il peut ou ressortir libre ou être livré aux autorités espagnoles. L'ancien président catalan est poursuivi dans son pays pour sédition et détournement de fonds publics.
8h03 sur France Musique. Dans la foulée du projet de loi de finances pour 2022, Olivier Denré, voici le projet de budget de la Sécurité sociale pour l'année prochaine.
Présenté ce matin par le gouvernement, il doit accompagner la sortie de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Il doit aussi prendre en charge les augmentations de salaires promises par le fameux Ségur de la Santé. Enfin, un effort est prévu pour la recherche pharmaceutique. Au bout du compte, le trou de la Sécu devrait lui dépasser les 34 milliards d'euros l'année prochaine. Véronique Julia.
C'est un budget de l'assurance maladie encore marqué par la crise, mais évidemment beaucoup moins que ces deux dernières années où le déficit a dépassé à chaque fois les 30 milliards d'euros, creusant la dette de la branche. Quand on sait que les tests Covid ont coûté à eux seuls plus de 5 milliards d'euros en 2021, on imagine bien que l'an prochain, avec le déremboursement de ces tests, on va se libérer d'un sacré poids. Les dépenses liées au Covid devraient d'ailleurs diminuer de près de 10 milliards d'euros en 2022, même si par prudence, 5 milliards ont quand même été provisionnés pour les tests, les vaccins, les arrêts de travail liés au Covid. Ça paraît confortable, mais ça pourrait être aussi sous-estimé en cas de résurgence de l'épidémie. En 2022, l'exécution du Ségur de la Santé pèsera lourd encore sur les dépenses, avec la revalorisation des salaires et des carrières, plus de 12 milliards d'euros. Malgré ce contexte, l'exécutif a promis en début de semaine un coup de pouce à l'innovation. 1 milliard de plus est annoncé pour les médicaments et les dispositifs médicaux innovants et onéreux. Une enveloppe aussi pour la poursuite du développement numérique et la contraception gratuite jusqu'à 25 ans.
Plusieurs Plusieurs centaines de procédures ont été lancées par l'assurance maladie contre des soignants. Ils sont soupçonnés d'avoir fabriqué des faux passes sanitaires. 36 000 personnes en auraient bénéficié pour éviter de se faire vacciner. Ils ont été achetés entre 150 et 400 euros. Les sanctions sont lourdes, jusqu'à 5 ans de prison et 150 000 euros d'amende pour les faussaires et 3 ans de détention et 45 000 euros d'amende pour tous les utilisateurs. Enfin, sachez qu'il existe depuis hier une place parisienne qui porte le nom de Juliette Gréco. Un an après la disparition de cette icône de la chanson française, elle a été inaugurée, cette place, hier dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. L'hommage s'est terminé avec la javanaise et la trompette d'Ibrahim Malouf. 8h passées de 5 minutes. À suivre, sans tambour ni trompette, le reportage à 8h10 de Clément Buzalka sur la réouverture d'une bibliothèque musicale de renom située dans un hôtel particulier du 8e arrondissement de la capitale. Pour l'occasion, Gabriel Oliver Aiguillon, le lieu que vous connaissez bien d'ailleurs, a changé de nom.
Absolument, rendez-vous à 8h10. Merci beaucoup Olivier Denré, à lundi.
Bon week-end à vous, à lundi.
Bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.